vaut mieux, évidemment.
Vous êtes en train de dire, vous pensez la
toujours,
chose.
Toujours comprenez ce que j'ai répété déjà plusieurs fois. Saint Thomas est en théologie scientifique, donc il y a des principes. Alors, nous avons ensuite la stratégie prudentielle.
Oui. Qui ne limite pas les principes et qui les applique selon telle ou telle circonstance.
Pourquoi ça repose? Parce qu'il y a la passion d'amour, la passion de haine, mais il n'y a pas la passion d'ignorance. Enfin de...
Non, c'est parce que je crois que saint Thomas ici, vous voyez, faisons attention, l'argumentation est indirecte, elle n'est pas directe. Hein. Il dit, pour mieux comprendre, c'est ça que ça veut dire, pour mieux comprendre la primauté de Dieu dans l'amour, voyons où ça commence. Oui, donc c'est pas direct. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas l'appliquer comme un principe immédiat au point de vue pratique. C'est uniquement au niveau spéculatif pour qu'on mette en pleine lumière que Dieu doit être le premier aimé. Il doit être le premier aimé. La preuve, c'est ce que dit Jésus. Hein. Si Jésus dit ça, si quelqu'un vient à moi sans haïr, donc expliquons, ça veut dire sans haïr. Parce que si nos parents ont compris très bien notre vocation, on les a pas haïs. Et on a suivi Christ. Donc c'est pour comprendre ce texte de l'Écriture, vous voyez, qui est très net. Hein. Alors, c'est bien comme on l'explique aujourd'hui. On dit, c'est de l'araméen écrit en grec. Alors dans l'araméen, il n'y a pas de distinction. On passe de l'amour à la haine. Oui. Non, je ne crois pas du tout. Que c'est une volonté de Dieu d'exprimer ces choses avec quelque chose d'extrêmement brutal, mais il s'agit de bien comprendre. Et au fond, là, c'est pour ça que je dis que c'est une très belle exégèse de ce texte, voyez. Au fond, c'est ce texte. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses liens, il ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire primauté de l'amour du Christ. Et pour bien montrer cette primauté de l'amour du Christ, si de fait votre père, votre mère, votre femme, vos enfants vous empêchent de suivre le Christ, il faut les haïr pour suivre le Christ. Donc il faut s'écarter d'eux, c'est ça que ça veut dire haïr. Hein. Haïr, c'est s'écarter d'eux, c'est se mettre le plus loin. Ça ne veut pas dire avoir du mal, hein. C'est se mettre le plus loin possible d'eux. La haine est un mouvement qui nous met le plus loin possible. C'est un mouvement d'éloignement. Éloignez-vous d'eux et soyez libres. Oui. Traduisez ça psychologiquement. Éloignez-vous d'eux et vous serez libres. Tandis que si vous restez tout le temps liés, c'est ce qu'on dira du reste. On voit toujours ces cas-là. C'est un tragique du reste. C'est très tragique. Quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, les parents sont furieux qu'il entre au couvent, et alors ils font la grève de la faim. Je vois un cas comme ça. La mère fait la grève de la faim. Au bout de 15 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Très beau de dire, bon, très bien, on l'ignore complètement, tant pis, elle va mourir. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Sa cause conscience serait très, 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 très particulière. Hein. Est-ce que j'ai le droit de dire, au fond, tapis, vous êtes entré au couvent, maintenant vous êtes entré, tournez le dos à vos parents, ça y est. Or, on sait, parce que la sœur téléphonait régulièrement, et la mère est dans un état, ne mange plus. Elle ne peut plus manger. Ma fille est entrée au couvent, je crève. Qu'est-ce que vous feriez? Bon, des choses comme ça. Et ça arrive, puisqu'on est de plus en plus en terre qui n'est plus. Mais ce qu'on disait en Afrique, c'était des choses comme ça affolantes. C'était un foyer de charité où il y avait une vocation de les parents étaient sorciers. Et lui avait reçu le baptême quand il avait 14 ans, et puis il voulait entrer au foyer. Pour question, quitter sa famille, entre vous. Alors, le père a dit à Nassé de poisonner tout le couvent. Comme il était sorcier, il était capable de le faire, hein, il l'avait fait. D'empoisonner tout le couvent. Du moins, d'empoisonner tout le foyer.
suis la responsabilité du père de Paul, c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut faire?
Alors il a dit, essaie de voir ton père, essaie de t'arranger avec lui, déjà convaincu. Mais alors là, on voit très bien, les principes sont nets, la prudence. La prudence, c'est ça. Les principes sont très nets, c'est évident. Mais, c'est pas si grave que ça. C'est très, très délicat. On est devant des constamment. Alors, il faut voir les principes. Il faut voir les principes. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a une prudence vu la complexité des choses. Hein. C'est dans ce sens-là. Vous voyez. Alors, c'est très... Moi, je trouve ça très beau de voir les principes dans toute leur pureté. C'est beau. Mais faisons attention. Quand il s'agit de l'application de notre vie concrète, il s'agit de comprendre qu'il y a une prudence dès qu'il s'agit de l'extérieur. C'est-à-dire de notre attitude vis-à-vis de nos parents. L'attitude que nous devons avoir. Les gestes extérieurs. Alors, les gestes extérieurs, ça fait partie. Hein. Intérieurement, on est accroché au Christ et on sait qu'on doit l'aimer par-dessus tout, mais nos gestes extérieurs vis-à-vis d'eux. Bon. Ne semble-t-il pas, il est dit en Saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? D'où il apparaît que ce qui est le plus visible est aussi le plus aimable, car la vision est le principe de l'amour, comme il est dit dans aux Éthiques. Or Dieu est moins visible que le prochain, et donc moins aimable par la charité. Ça, c'est merveilleux comme, hein, on est tous d'accord. C'est le plus visible et le plus aimable. Or, le prochain, c'est le plus visible, donc il faut l'aimer en premier lieu. Commencez par aimer le prochain, puis après vous aimerez Dieu qui est invisible. Ça se dit beaucoup aujourd'hui, ça. J'ai entendu ça plus d'une fois. De saints prêtres. Une chose, c'était à propos d'un au couvent. Elle est une chipie chez elle, qu'elle commence par aimer, puis on entrera au couvent après, quand elle sera sainte. Elle dit, mais elle est une chipie peut-être parce qu'elle n'est pas dans son milieu. Quand elle sera au couvent, elle ne sera plus une chipie. Mais chez elle, c'est impossible. Alors, vous voyez, on juge la vocation en fonction des vertus. Une chose est cause de l'amour de deux manières. Tout d'abord, comme étant ce qui motive l'amour. Et c'est de cette façon que le bien est cause de l'amour, puisqu'un être est aimé pour autant qu'il est bon. En second lieu, une chose est cause de l'amour en tant qu'elle se présente comme le chemin qui y conduit. Et c'est ainsi que la vision est cause de l'amour. Non pas qu'une chose soit aimable en raison de sa visibilité, mais parce que par la vision, nous sommes amenés à l'aimer. Il ne suit donc pas que ce qui est plus visible est aussi plus aimable, mais seulement qu'il se présente le premier à nous pour être aimé. Et la connaissance n'est pas ce qui spécifie l'amour, mais la connaissance est ce qui conditionne l'amour. Il faut connaître pour aimer. Or, le visible, c'est évidemment ce que je vois le premier. C'est en ce sens que raisonne l'apôtre. Par cela même qu'il est plus visible pour nous, notre prochain s'offre par priorité à notre amour. L'âme apprend par ce qu'elle connaît à aimer ce qu'elle ne connaît pas, dit en effet Saint Grégoire. Si donc quelqu'un n'aime pas son prochain, on pourra en arguer qu'il n'aime pas Dieu. Non pas que le prochain soit plus aimable que Dieu, mais parce qu'il s'offre le premier à notre amour. Au demeurant, Dieu est le plus aimable en raison de sa plus grande bonté. Donc, propter maiorem bonitatem. Donc, vous voyez le raisonnement de saint Thomas. Hein, c'est très beau, c'est une très belle manière de saisir comment le prochain, normalement, doit être le premier aimé, selon l'ordre génétique. C'est vrai. C'est pour ça, au point de vue éducation, on voit ça. Et c'est pour ça qu'on dit, au point de vue éducation, c'est ce qu'on dira. Hein. Celui qui est méchant pour les animaux est méchant avec les autres. Hein. Dans les braves paysans. Hein. Ah, il n'est pas bon celui-là avec le chien, il n'est pas bon avec les animaux, donc il n'est pas bon avec les hommes. On voit celui qui est bon avec les animaux, parce que le chien est plus proche, génétiquement, tu vois, dans l'ordre génétique, selon l'ordre génétique, c'est pas du tout selon l'ordre de perfection. Là, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, le prochain est plus proche de nous, mais Dieu est plus proche selon l'ordre ultime. Et donc il doit être plus aimé. Second. Alors, deuxième objection. La similitude est la cause de l'amour. Selon cette parole de l'Ecclésiastique, tout être vivant aime son semblable. Or, il y a plus de ressemblance entre l'homme et son prochain qu'entre l'homme et Dieu. L'homme aime donc son prochain plus que Dieu par la charité. La ressemblance que nous avons avec Dieu précède et cause la ressemblance que nous avons avec le prochain. C'est en effet parce que nous recevons de Dieu ce que notre prochain en reçoit lui aussi que nous sommes semblables à notre prochain. Et voilà pourquoi, en raison de la ressemblance, nous devons aimer Dieu plus que le prochain. Dieu est cause et source de ressemblance, donc nous l'aimons plus que le prochain. Troisième réponse, troisième objection. Selon saint Augustin, c'est Dieu que la charité aime dans le prochain. Or, Dieu n'est pas plus grand en lui-même que dans le prochain. Il ne doit donc pas être plus aimé en lui-même que dans le prochain. Par conséquent, Dieu ne doit pas être plus aimé que le prochain. Ça, c'est un petit raisonnement assez sophistique. Hein? Réponse. Dieu considéré en sa substance est égal à lui-même où qu'il soit, parce qu'il ne saurait s'amoindrir en existant dans une créature. Cependant, le prochain ne possède pas la bonté de Dieu comme Dieu la possède, car Dieu la possède essentiellement, tandis que le prochain ne la possède que par participation. Donc de nouveau ici, ça c'est pas facile à comprendre. Alors, l'homme doit-il en charité aimer Dieu plus que lui-même? Ça, c'est un peu plus coriace. Hein. Mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la question de proximité visible et de proximité invisible. Une fois qu'on a compris ça, on comprend tout de suite. Saint Augustin dit, si tu dois t'aimer toi-même, non pour toi-même, mais pour celui en qui se trouve la fin la plus légitime de ton amour, que nul autre homme ne s'irrite, si tu t'aimes, si tu l'aimes lui aussi pour Dieu. Or, ce par quoi une chose est telle, est à plus forte raison telle. L'homme est donc tenu d'aimer Dieu plus que lui-même, puisqu'il s'aime à cause de Dieu. Nous pouvons recevoir de Dieu deux sortes de biens, le bien de la nature et celui de la grâce. Sur la communication des biens naturels, que Dieu nous a fait se fonde l'amour naturel. En vertu de cet amour, non seulement l'homme, dans l'intégrité de sa nature, aime Dieu plus que toute chose et plus que lui-même, mais encore toute créature. Mais encore, toute créature aime Dieu à sa manière, c'est-à-dire ou d'un amour intellectuel, les anges, ou rationnel, raisonnable, les hommes, ou animal, les animaux, ou à tout le moins naturel, ou à tout le moins naturel comme les pierres et les autres êtres privés de raison. l'amour instinctif, l'amour naturel, de l'appétit naturel. La raison en est que dans un tout, chaque partie aime naturellement le bien commun de ce tout, plus que son bien propre et particulier. Ça, c'est un raisonnement que saint Thomas emploie souvent. Ça revient plusieurs fois dans la somme, ça. Et cela se manifeste dans l'activité des êtres. Chaque partie, en effet, a une inclination primordiale à l'action commune qui propose l'utilité du tout. Ainsi en est-il dans les vertus politiques qui font que les citoyens souffrent davantage en leur bien et parfois en leur personne en vue du bien commun. À bien plus forte raison, le vérifie-t-on dans l'amitié de charité, qui est fondée sur la communication des dons de la grâce. Ainsi, l'homme est-il tenu par la charité d'aimer Dieu, qui est le bien commun de tous, plus que lui-même. En effet, la béatitude réside en Dieu, comme dans la source et le principe commun de tous ceux qui peuvent le partager. Et c'est curieux comme raisonnement, hein ? Ça semble un peu compliqué. Pour pouvoir montrer qu'on doit aimer Dieu plus que nous. Je ne sais pas si vous, ça vous éclaire énormément. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi saint Thomas fait un raisonnement si compliqué. S'il fait ce raisonnement si compliqué, il y a une raison. Saint Thomas, quand même, est un saint. Donc, il a aussi cette spontanéité de considérer que oui, il aime Dieu plus. Un gosse, quand vous lui expliquez qu'il faut aimer Dieu, mais il comprend qu'il faut aimer Dieu plus que lui. Il faut vraiment des intellectuels fatigués. Hein. Qui le sait plus que quand même. Ben, normalement, c'est instinctif d'aimer Dieu plus que nous-mêmes. Je ne sais pas, moi, si ça me semble quelque chose qui va de soi. Là, on comprend que l'amour à l'égard de Dieu est premier, puisque Dieu est source de cet amour. Je voudrais dire ça. Dieu est source de cet amour, donc il faut l'aimer plus. Puisque si nous sommes les effets, on aime tous plus la source que l'effet. Alors on devrait dire ça tout de suite. Alors saint Thomas prend un raisonnement très curieux, un raisonnement qu'il aime bien du reste. La preuve, c'est que ça revient souvent. Un raisonnement qu'il aime bien, le raisonnement de la partie du tout. C'est le raisonnement de la partie du tout. Et c'est pour ça que Dieu paraît ici comme le bien commun. Hein? C'est très curieux. Source du bien commun. Et il le dit, hein, ces choses. Ainsi l'homme est-il tenu par la charité d'aimer Dieu, qui est le bien commun de tous. Moi, j'ai jamais pensé que Dieu était le bien commun de tous quand j'aime Dieu de la charité. Je ne crois pas que vous faites ce raisonnement-là non plus. Le bien commun. Le bien commun de tous. C'est très très curieux, ça, comme raisonnement. Mais alors évidemment, c'est ces raisonnements-là que ceux qui veulent critiquer saint Thomas n'ont qu'à prendre ce raisonnement-là. Vous voyez, saint Thomas veut prouver que l'homme doit aimer en charité, aimer Dieu plus que lui-même. Alors il prend cette chose compliquée, extraordinairement, de partir tout. Le Dieu est bien commun. Jamais pensé que Dieu était mon bien commun. C'est Dieu le bien commun de tous. Alors pourquoi saint Thomas fait-il ce raisonnement? Parce que j'ai un a priori que saint Thomas est intelligent. J'ai cet a priori. Dieu, saint Thomas est intelligent, saint Thomas est un saint. Deux a priori sur le même homme, c'est bien. Il est un saint et puis il est intelligent. Et alors, quand il s'agit de prouver scientifiquement, quand il s'agit de prouver scientifiquement qu'il faut aimer plus Dieu que soi-même, saint Thomas fait ce raisonnement de la partie du tout. Oui. Alors, je crois qu'il faut essayer de comprendre. On est dans un raisonnement scientifique, c'est-à-dire objectif. instinctivement, on a un amour de soi qui est premier. On a un égoïsme forcené. On s'aime plus que son voisin, normalement, n'est-ce pas ? Je dis normalement, parce que quelquefois, on n'a pas beaucoup d'amour pour soi, alors on a un débordement d'amour pour le prochain. Alors dites-vous bien, quand il y a un prochain qui vous aime avec débordement, ça prouve qu'il ne s'aime pas. Alors il cherche une compensation, mais celui qui s'aime normalement, c'est vrai. Alors saint Thomas veut essayer de trouver, vous voyez, comment l'homme est parti d'un tout. Il le fait dans le raisonnement de la grâce, la nécessité de la grâce, en montrant que la partie aime plus le tout que lui-même, qu'elle-même. Elle a un amour plus grand, instinctif, vers le tout. Or, Dieu est ce tout, donc la charité qui me permet de comprendre que je suis lié à Dieu comme celui qui réalise une nouvelle communauté. Je crois que c'est cette idée-là qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il appelle à l'aspect politique. Oui, qui appelle à l'esprit politique. Il regarde la charité en tant que la charité va être un source d'un tissu de relations nouvelles de la créature à l'égard du créateur. Et alors, parce que la charité est source de ce tissu de relations des différentes parties à l'égard du tout, Dieu invisible va être aimé d'un plus grand amour parce que je participe à ce bien premier. C'est l'idée de la participation, n'est-ce pas, qui est là cachée. C'est pour ça que c'est la partie et le tout. C'est l'idée de la participation. Alors cette idée de la participation, elle en elle-même est très très forte et très belle. Hein. C'est que je suis en effet, dans l'ordre de la charité, je ne suis qu'une partie. Je reçois tout de Dieu. Alors que Dieu, lui, n'est pas une partie, puisqu'il est source. Alors, objectivement, je peux montrer, au point de vue scientifique, théologie scientifique, que étant une partie, nécessairement, j'aime plus le tout que la partie. Et je crois que c'est ça que saint Thomas veut montrer. Vous voyez, c'est pour donner ce caractère objectif, de montrer qu'il est naturel, l'ordre. Ici, surnaturellement. Il est naturellement surnaturel. Si vous voulez, c'est naturel que la partie aime plus le tout qu'elle-même. Ceci est vrai même dans l'ordre naturel. Ceci est vrai même dans l'ordre surnaturel. L'ordre surnaturel, là, à ce point de vue-là, ne fait que renforcer l'ordre surnaturel. Ne fait renforcer l'ordre naturel. Mais c'est le même principe. Et je crois que c'est pour ça que saint Thomas fait ça. Vous voyez, c'est toujours le souci de théologie scientifique de ramener à quelque chose qui est fondamental dans l'ordre de la nature. La grâce ne détruit pas la nature. Alors, parce que la grâce ne détruit pas la nature, il faut trouver le fondement naturel comme quoi la partie aime plus le tout. Et c'est pour ça que ça paraît si compliqué. Parce que dans l'ordre surnaturel, ça me semble tellement spontané d'aimer plus ma source que de moi-même. Mais il faut montrer que ça s'enracine dans un ordre naturel. Oui. Et s'enracinant dans l'ordre naturel, on manque de partir. Je crois que c'est la raison. Je ne vois pas d'autre raison qu'on peut donner pour montrer qu'il prend ce raisonnement de la partie du tout. Alors là, ça peut se comprendre. Mais si on regarde ce que c'est que la théologie scientifique essaie d'éclairer le mystère en mettant l'ordre naturel au service du mystère, comme je peux le faire. Or, naturellement, la partie est ordonnée vers le tout en premier lieu que vis-à-vis d'elle-même. Il y a un ordre plus foncier de la partie vis-à-vis du tout que vis-à-vis d'elle-même. Donc ça, c'est quelque chose de connu au point de vue purement philosophique. Eh bien, dans l'ordre surnaturel, il est donc normal qu'on aime plus Dieu. Oui. Donc c'est pour expliquer théologiquement comment il est normal d'offrir sa vie pour Dieu.
Les anges déchus qui n'ont parce que vous, ce penchant naturel, n'était pas subi à une influence extérieure qui les dépassait comme l'homme, par exemple.
Oui, mais alors ça causait la liberté. C'est la liberté. C'est que la liberté va faire quelque chose de monstrueux.
Donc la liberté nous laisse le choix de ne pas suivre
exactement, la nature.
Enfin, à l'homme, c'est évident, parce qu'on en a l'expérience. Mais...
Et le fromage aussi. C'est pour montrer le caractère monstrueux du péché. Dans le péché, au fond, la partie qui normalement est ordonnée au tout, la partie devient tout. Et le péché d'orgueil fait que la partie devient tout. On n'accepte pas d'être relatif à quelque chose d'autre. La créature comme créature est relative à Dieu. Elle est une partie. Elle devrait, comme partie, si spirituelle qu'elle soit, s'orienter vers le tout. Or, elle est capable de regarder son conditionnement avant que sa finalité. Donc, se regarder elle-même et de s'enfler pour devenir le tout. La grenouille qui est dans une aussi grosse que l'autre. Non, c'est ça, c'est le point de vue profond. C'est très vrai que ça pose le problème. Au fond, l'orgueil, c'est monstrueux. Si on est objectif, ma partie qui veut devenir plus que tout. À la place d'être relatif à la réalité, je m'enferme en moi-même et je me rompe. Et je deviens moi partie tout. Est-ce que vous voyez ça? Oui.
Pourquoi il distingue l'amour intellectuel et l'amour rationnel dans tous les angélistes?
Mais pour montrer que c'est la même chose. Là, il donne une petite analogie, n'est-ce pas?
Non, mais il donne deux mots différents. Pour les
hommes. Ah oui, c'est comme toujours, je vous l'ai dit, ça. Le rationalisme, c'est chez saint Thomas, donc, vous voyez...
L'amour intellectuel
et... Oui, ça c'est la petite traduction qui donne ça. Il demandait, vous voyez, quid libet creatura suo modo, ibest, vel intellectuali. Saint Thomas ne dit pas ange. Vel intellectuali. Vel rationali. Vel animali, vel saltem rationali amore, sicut lapides et alia quod alcognisces. Mais saint Thomas nous donne comme exemple que les lapides. Les anges et les hommes, ça va de soi. Alors, bon, le langage de saint Thomas, constamment, et à ce point de vue-là, il faut qu'on fasse grande attention. Le langage de saint Thomas, quand on parle d'une substance intellectuelle, on parle des anges. Quand on parle d'une substance rationnelle, on parle de l'homme. Oui, tout simplement. C'est pour ça que la traduction est juste en ajoutant, mais c'est une glose, marginale. Oui. Mais les substances intellectuelles, c'est toujours les anges. On dira, et les substances rationnelles, c'est l'homme. Parce que chez l'homme, l'intellectuel est rationnel. Nous ne sommes pas en face d'un intellectuel pur. Nous ne sommes pas des intellectuels purs. Nous sommes des intellectuels liés à la raison. Et c'est pour ça que nous sommes des substances rationnelles. Oui. Bon. Pas de... Oui, pas de difficulté.
La partie à l'égard du tout, par exemple, dans l'ordre de la physis, le caillou à l'égard de...
À l'égard de notre physique. De notre physique. C'est pour ça qu'il tombe vers le centre.
Et nous, l'homme, pour l'homme.
Pour l'homme, c'est le tout, alors il y a les deux aspects, il y a les deux tout. Il y a le tout, Dieu bien commun, mais c'est le tout de l'être. Vous êtes un être participé. Et le tout de l'être, c'est le bien commun. Et puis vous êtes le tout, la partie par rapport à la cité. C'est pour ça que j'ai toujours l'analogie avec la cité. Et c'est pour ça que saint Thomas dit qu'il est normal que si la cité est en danger, que la partie offre sa vie.
C'est naturel que l'homme préfère la cité à soi-même.
Une inclination naturelle de l'homme de préférer le tout. En tant que la cité est tout. Hein. Attention. Le jour où la cité n'est pas votre tout, et n'est plus votre tout, hein, c'est autre chose. Mais si elle est votre tout, au point de vue culture, au point de vue, vous voyez, plein de choses comme ça, on s'offre pour sauver le tout. Il est naturel que la partie sorte par rapport au tout. Alors, vous voyez, dans le cas de l'homme, c'est très complexe. Parce que s'affiche pas les choses de Maritain entre individu et personne. En tant que j'individu, en tant que Maritain dit, en tant qu'individu, je suis une partie de la cité. Donc en tant qu'individu, je m'offre. Et pas en tant que personne, puisque je suis tout en tant que personne. Et c'est une fausse distinction, parce que l'individu et la personne s'identifient. Mais il y a quelque chose de juste, c'est qu'il y a toujours dans l'homme, par le point de vue de l'esprit, la possibilité de s'élever au-dessus de ce tout de la communauté. Et par là de comprendre qu'il y a une fin personnelle qui est plus grande que celle de la cité. Votre fin personnelle de contemplatif peut vous mettre en dehors de la cité, n'est-ce pas, et dire la cité crève, je le sais, et que je mène simplement une vie active, alors le tout et le bien commun de la cité reprend ses droits. Oui. C'est pour ça qu'on doit le prendre du côté de la finalité, et pas du côté individu et personne. C'est la finalité ultime de l'esprit qui est au-delà du bien commun de la cité. Et c'est en tant que je suis contemplatif que j'ai le droit de me désintéresser du bien commun de la cité. Oui. En tant que contemplatif, mais pas en tant qu'agissant uniquement au niveau humain, en tant que construisant. Quand je construis, je suis sous le bien commun de la cité. Et quand je contemple, je suis au-delà. Mais il y a les deux finalités, je crois, qui dépassent le bien commun de la cité. Il y a la contemplation et l'amour d'habitude. Là, c'est les deux activités qui sont au-delà et qui rejoignent le bien commun transcendant, Dieu. Et puis, il y a l'activité, les actions humaines d'agir, donc mes actions humaines de force, et mon fatcheret. Alors ça, il est soumis au bien commun de la cité.
Mais si tel est le cas, Père, simplement d'avoir un bon ami, ça m'empêche de défendre la patrie.
Ah non, c'est pas suffisant, tu viens de prendre comme de l'amour d'amitié, dans le mariage. L'État ne peut pas m'empêcher de me marier. Ce qui montre bien que l'amour d'amitié est au-dessus. Même si l'État dit, on est dans un danger extraordinaire actuellement, j'empêche. Alors évidemment, il peut mobiliser les hommes. C'est sûr. Mais il ne peut pas empêcher le mariage. Il ne peut pas empêcher l'amour d'amitié.
Il peut empêcher l'exercice. Hein.
Il peut empêcher l'exercice des enfants. Il n'y a pas que l'État qui fait ça. Oui. Pas empêcher. Mais il ne peut pas empêcher l'amour d'amitié comme ça. C'est pour ça que l'amour d'amitié est une finalité qui est au-delà du bien commun de l'État. Et ça, c'est très important, ça fait comprendre comment le mariage, c'est-à-dire comme amour d'amitié, est au-delà. Et alors, vous voyez, c'est là où cet amour d'amitié et la fécondité est liée à cet amour d'amitié, ces âmes ne dépendent pas de l'État. Tandis que si, de fait, la fécondité dépendait uniquement de la cause efficiente, ça dépendrait de l'État. L'État pourrait vous obliger, toutes les femmes capables d'avoir d'enfants, d'avoir dit, il y a une telle pénurie dans l'État, il faut à tout prix avoir des enfants. Les hommes ne peuvent pas faire ça. Parce que la fécondité, il y a l'amour d'amitié. Mais si je ne lis plus la fécondité à l'amour d'amitié, l'État pourrait le faire. C'est très curieux, ça. Et à fond, je crois que c'est assez normal, ça. Et pourquoi le fond pousse sur l'insémination artificielle, c'est parce qu'on le coupe de la fécondité, et alors à ce moment, ça peut mettre sur la main du temps. L'État peut alors arriver à dire, eh bien oui, ça dépend de moi. Je peux demander ça. Le citoyen peut voir s'il est capable de... L'État est en pénurie d'enfants, il en faut. Oui. C'est pour ça que c'est des choses qui sont très importantes à voir dans leur principe même. Hein. Le bien commun transcendant, il y a trois biens communs, vous voyez, il y a le bien commun personnel, je dirais l'amour d'amitié. Le bien commun personnel. Le bien commun transcendant et le bien commun immanent. Parce que le bien commun personnel, c'est l'amour d'amitié. Le bien commun transcendant, c'est Dieu, et le bien commun immanent. C'est évident, ça fait très drôle de voir parler de Dieu comme un bien commun, n'est-ce pas? Mais c'est une terre, c'est très curieux, hein? Saint Thomas prend ça d'Aristote. Très très curieux. Aristote, dans la métaphysique, parle d'un bien commun immanent et transcendant par rapport à l'armée et fait l'application par rapport à Dieu. Mais ça, Aristote ne dit pas que Dieu est un bien commun. Et saint Thomas va dire que Dieu est un bien commun. Parce que ça choque un peu. Tu vois? Parce que Dieu est un bien personnel, c'est pas un bien commun. Mais c'est bien commun en ce sens que c'est lui qui finalise tout. Alors il est commun. Donc l'analogie du tout est partie. Bon, c'est l'heure, je crois. Faut arrêter.